Merci Michael, merci de votre accueil. C'est une joie de pouvoir à la fois vous visiter puis de faire connaissance de cette église de Crète dont j'ai entendu parler depuis nombreuses années, d'abord par nos amis Metz, après Livechter et puis maintenant par Anaïs et puis Michael. C'est une joie aussi de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin. Et j'allais dire d'être vraiment, mais alors vraiment, dans la suite de la présidence de ce matin. On a médité un psaume tous ensemble et on va reméditer encore un psaume. On a parlé hier de relations et ce matin, on va parler de relations. On dit souvent que la parole de Dieu, en fait, est notre source de réconfort et d'enseignement. Et c'est le message que tu nous as transmis tout à l'heure. Les deux chants qu'on vient de chanter maintenant, c'est des paroles tirées de psaumes. Donc, en fait, on se nourrit de la parole de Dieu. La question que j'aimerais vous laisser en introduction, c'est est-ce qu'aujourd'hui, avec la réalité de ce que l'on peut lire, comprendre sur Internet, les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision chrétiennes, qui sont sources d'influence, est-ce que ces sources d'influence et les commentaires qu'en font les personnes, finalement, ne dominent pas l'intérêt que l'on pourrait avoir pour la parole de Dieu? Aujourd'hui, si vous avez faim et soif, vous pouvez aller dans une librairie chrétienne, acheter une Bible simple, mais aussi une Bible d'étude qui va vous aider à approfondir cette parole afin de vous en nourrir. Et les commentaires de la parole vont vous permettre de continuer à grandir et à progresser avec le Seigneur. Mais j'aimerais vraiment vous encourager à ce que la parole de Dieu reste la ressource numéro une de vos vies et que dans une lecture simple, comme on l'a fait ce matin. Ce matin, on a lu un psaume et en fait, on s'est nourri de cette parole. Notre frère nous en a tiré quelques éléments essentiels. Vous vous souvenez encore, la personne désespérée, comment est-ce qu'elle trouve du réconfort, c'était pas il y a si vieux, on n'a pas déjà oublié. Mais c'est ça finalement. C'est le basique. Et quand on peut se nourrir de cette parole au début d'une journée et dire au Seigneur, « Seigneur, tu vois, je vais vivre ça, il va y avoir telle rencontre, mais je te fais confiance. Et je veux garder le cap avec toi et je veux continuer à marcher. » Ce matin, j'aimerais méditer avec vous et parler de relation, d'une relation humaine qui était abîmée. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des amis, des frères, des sœurs, et de vous être à un moment donné senti trahi dans la relation avec eux. En tout cas, nous, ça nous est déjà arrivé. Alors, comment est-ce qu'on vit cette situation? Le printemps dernier, en fait, je suis tombé sur le psaume qu'on va méditer maintenant, et en fait, je me suis dit, waouh, ça montre bien encore une fois que dans la parole de Dieu, on peut trouver à la fois du réconfort, mais on peut trouver aussi des ressources pour dépasser les réalités que l'on vit. Alors, on va méditer ce psaume, on va essayer d'en tirer des leçons spirituelles. Et le psaume qu'on va lire et méditer ensemble, c'est le psaume 55, où David aurait pu dire « Mais même mon ami m'a trahi ». Ce psaume 55, c'est le deuxième livre des psaumes qui comprend, plutôt est dans le deuxième livre des psaumes, parce que le grand livre des psaumes qu'on a dans nos Bibles de 150 psaumes, en fait, il est découpé dans la littérature hébraïque en plusieurs sous-livres. Et ce psaume 55 est dans le deuxième livre des psaumes qui va du psaume 42 au psaume 72. Et en fait, dans ce livre-là, c'est un peu du lourd, parce qu'en fait, il y a tout le désarroi vécu par la nation d'Israël entre le règne de Salomon et l'exil, en fait, à Babylone. Et ces psaumes, en fait, reflètent finalement l'état spirituel d'Israël à cette époque. Donc, il s'agit d'une collection de psaumes, quand vous les lisez en série de 42 à 72, collection de psaumes qui vous parlent de conflits, de souffrance, de plainte et parfois de repentance. Et ce psaume que nous allons méditer va nous conduire à examiner comment nous pouvons vivre ces moments difficiles. Donc, si vous avez votre Bible, si vous avez votre smartphone, je vous invite à l'ouvrir parce qu'on va rester sur le texte biblique et on va le méditer tout au long de cette réflexion. Psaume 55, face à la trahison d'un ami, au chef de cœur, avec instrument à cordes, cantique de David. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. écoute-moi et réponds-moi. Gère, ça et là, dont mon chagrin, et je m'agite. À cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils m'accablent de maux, ils me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au fond de moi, et les terreurs de la mort fondent sur moi. La peur et l'épouvante m'assaillent, et la terreur m'envahit. Je dis, si seulement j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Oui, je fuirais bien loin, j'irais habiter au désert. Je m'échapperais bien vite, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Sème la confusion, Seigneur. Brouille leur langage, car je ne vois dans la ville que violence et querelle. Jour et nuit, elles font le tour de ces murailles. L'injustice et la misère y habitent. Les crimes sont au milieu d'elles. La fraude et la tromperie ne quittent pas ces places. Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'attaque à moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi, un homme de mon rang, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, elle est dans leur cœur. Quant à moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur assaut et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui siège de toute éternité. En effet, il n'y a pas de changement en eux. Ils ne craignent pas Dieu. Cet homme porte la main contre ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées dégainées. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais trébucher le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la tombe. Ces hommes, sanguinaires et trompeurs, ils n'atteindront pas la moitié de leur vie. Quant à moi, je me confie en toi. On pourrait dire amen, puis je me rassois, parce que finalement, le texte est suffisamment clair. Quelques éléments d'approfondissement de ce psaume. Tout d'abord, une remarque préliminaire. Vous avez lu, vous avez entendu, ce psaume a été écrit par David avec comme but que ses paroles soient chantées et au chef de chœur avec instrument à cordes. Alors, je ne sais pas si, pour vous, mais en tout cas pas pour moi, lorsque je suis dans le tourment, dans le doute, dans le désespoir, je n'ai pas du tout envie de chanter tout ça. Et pourtant, on s'aperçoit qu'il y a certains psaumes qui étaient des psaumes terrifiants de désespoir, qui étaient chantés avec instruments, qui étaient chantés. Oser parler en présidence de culte, comme tu l'as fait ce matin, de la réalité du désespoir chez le chrétien, c'est important. Parce que notre vie chrétienne n'est pas faite de « waouh, tout baigne, prospérité, gloire et magnificence ». Il y a des fois où c'est très, 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 très compliqué. Et le simple fait de l'évoquer, de dire « ben voilà, la vie chrétienne normale est aussi faite de cela ». Et qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on le vit? Vous savez, quand vous regardez globalement l'époque dans laquelle David a écrit ce psaume, en fait, ça pourrait correspondent, d'après les commentateurs, à celle de la révolte de son fils Absalom. Fils Absalom qui était conseillé par un homme qui s'appelait Ahithophel. En fait, les commentateurs disent cela à cause du verset 10, où David dit quasiment la même phrase que dans 2 Samuel 15, verset 32. Il dit « Sème la confusion, brouille leur langage ». Ce n'est pas évident d'avoir un fils chair de ma chair, qui se révolte contre nous. C'est pas rien. Et en fait, David vit cette souffrance-là, comme il a vécu d'autres choses. Si vous croyez que la vie de David était ça, vous vous trompez complètement. J'ai essayé de le mettre en graphique. la vie de David. Excusez-moi, c'est pas tout à fait net, hein, mais regardez. D'abord, reconnaissance, onction comme roi, sa victoire sur Goliath, mais aussi fuite devant Saül, destruction de Tziklag, après ça comme roi de Juda, d'Israël, alliance de l'Éternel, Père d'Israël. Là, il y a un long temps de paix, mais dégringolade de la part de David, qui se croyait peut-être un peu trop sûr de lui, adultère et meurtre en 2 Samuel 11. Après, naissance de Salomon, révolte d'Absalom, retour sur le trône, recensement, préparation pour la construction du temple. Ce côté montagne russe comme ça, ça m'interpelle. Parce qu'en fait, la réalité de ce psaume qu'on vient de lire, là, le psaume 55, c'est une véritable complainte qu'il vit, avec une issue glorieuse tout à la fin. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'en fait, il y a tout d'abord une partie d'exposition de sa situation qui était douloureuse. Des versets 10 à 16, on voit une description de la conduite de ses ennemis et notamment de cet abandon, de cette trahison de son ami. Et puis après, des versets 17 à 22, c'est l'expression de sa confiance en Dieu et il croit que Dieu va le délivrer de cette réalité-là. Et il y a une conclusion qui contient une exhortation et un résumé des pensées du psaume. Alors tout d'abord, l'exposition de sa situation. C'est impossible de lire ce psaume sans ressentir finalement cette réalité d'angoisse que David vit, un petit peu comme tout à l'heure avec Asaph dans ce qu'il disait. La situation dans laquelle il se trouve est assez évidente d'après le texte. David était trahi par un proche, quelqu'un avec qui il avait établi une alliance et en qui il avait toute confiance. Et on perçoit sa peine, on perçoit sa souffrance, et il décrit en fait ce que cet ami était, et il dit « C'est toi, un homme comme moi, mon intime, toi que je connais bien. Ensemble, nous connaissions la douceur des secrets partagés. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. » On voit au début de ce psaume la manière dont il décrit son expérience. Hein. Il supplie Dieu de bien vouloir l'écouter, de lui répondre. Et là, il utilise toutes sortes de termes. Il erre, il gémit, il se sent poursuivi par ses ennemis. Il y a de la colère qui est là. Il décrit aussi ses émotions. Alors, si nous sommes le style de chrétien où finalement, lorsque je ressens des émotions, je dois mettre une couverture spirituelle pour surtout pas les exprimer, vous avez tout faux. Parce que là, on a une quintessence d'expression et d'émotions qui sont mentionnées, qui sont très fortes. Tremblement, terreur de mort, peur, épouvante. Il est vraiment très mal, David. Et il souhaiterait même s'envoler très loin. Vous voyez cette image, l'image de la colombe, là, symbole de l'innocence et de la paix par excellence. Mais s'envoler très loin, ça peut vouloir dire aussi, j'ai envie d'en finir, quoi. Désespoir à son comble. Je relèverai aussi cette expression, terreur de mort. Ça m'a fait tout de suite penser à une autre terreur de mort qu'on voit dans le Nouveau Testament. C'est la terreur de mort de Jésus à Gethsémané, qui lui aussi a été trahi par ses disciples, plus particulièrement par Pierre. Trahi, abandonné. Et pourtant, Jésus à Gethsémané va crier à Dieu. Il va crier à Dieu pour pouvoir véritablement être dépendant de lui. C'est réconfortant de voir que des géants spirituels comme David ont pu avoir cette envie finalement de fuir leur réalité. C'est réconfortant, pourquoi ? Non pas parce qu'il faille être dans le même état que lui, surtout pas, mais de réaliser que finalement c'est un homme de Dieu, un homme qui voulait honorer Dieu et il a traversé des temps qui n'étaient pas faciles. David dit, nous allions... En parlant de sa relation avec son ami, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Eh bien, nous, on pourrait dire, on était le même groupe de copains. Je pense aux plus jeunes. On allait au groupe de jeunes ensemble. On allait dans la même église, dans le même groupe de maison. Et pourtant, là, il m'a fait un de ces coups foireux, quoi. Regardez ce qu'il m'a dit. Regardez ce qu'il a colporté sur moi. Sentiment d'une amitié qui se brise, une amitié qui a été trahie. David continue à décrire, en fait, ses ennemis et la conduite de ses ennemis, et notamment de cet ami. En fait, de toute évidence, cette trahison a lieu pendant le règne de David, car il s'inquiète, en fait, pas seulement de lui, de son état, mais aussi de l'état de la cité dont il a la responsabilité, en l'occurrence Jérusalem. On pourrait imaginer que cet ami s'est élevé aussi contre l'autorité spirituelle, contre les responsabilités en tant que roi de David. Et en fait, cet ami apparemment était suivi par une petite troupe. Et c'est là pour David une source de déception, car Jérusalem, c'était la cité de la paix, la ville sainte. Elle est maintenant, d'après ce que nous dit ce texte, envahie par des violences, par des dissensions, par des crimes, par des fraudes, par des violences, par de la tromperie, toutes sortes de choses qui arrivent lorsqu'on n'est plus en phase dans la relation avec Dieu. Et les ennemis extérieurs, tout en représentant une menace constante, sont loin finalement d'être aussi dangereux que la corruption qu'il peut y avoir à l'intérieur même de la ville. Oui, rien n'est plus douloureux que des blessures ou des paroles données par un proche. Même si nous devons reconnaître que certaines fois, des proches, des amis peuvent s'opposer à nous, peuvent nous dire des paroles dans le but de nous remettre en question concernant notre comportement. Vous voyez, je prends le problème aussi dans l'autre sens. Mais des véritables amis ne nous abandonnent pas en cas de difficulté. Ils prennent soin de nous. Ils expriment leur amour tout en nous disant des paroles qui peuvent nous remettre en cause. Ça, des vrais amis. Ici, il est question d'une trahison qui est source de la douleur de David. Mais ce texte doit être pour nous aussi une interrogation et oser se poser la question finalement. J'ai des amis, j'ai des personnes qui sont très proches. Quelle sorte d'amis suis-je pour les autres? Est-ce que je suis un ami à l'écoute? Est-ce que je suis un ami discret? Est-ce que je suis un ami fidèle? Un ami qui est toujours prêt, en fait, à prendre des nouvelles, à s'enquérir, à accompagner. C'est ça la réalité, finalement, dit dans d'autres mots, la réalité de l'amour fraternel à vivre au sein d'une communauté chrétienne. Maintenant, nous voyons ce que David a fait. Comme je l'ai déjà dit en introduction, il décrit son état panique à Dieu. Son état aurait très bien pu sortir d'un manuel de psychologie moderne. David est honnête devant Dieu. Il exprime tous ses sentiments négatifs, sans contrainte, sans excuse. Et en le faisant, il nous donne aussi, encore une fois, un modèle et un exemple à vivre d'honnêteté et d'intégrité devant Dieu et aussi devant la communauté réunie. Et pour moi, ce n'est pas un hasard si Dieu a inspiré une telle prière et nous l'a laissée pour nous. Parce que ça nous édifie, ça nous fortifie, et finalement, Dieu nous invite à exprimer nos peines et nos désespoirs de la même manière. Vous remarquerez aussi que la prière de David ne se conclut pas dans le désespoir. Et heureusement, ça nous laisse quand même sur une note encourageante, stimulante pour notre foi. Elle nous montre aussi comment trouver de l'espoir dans nos moments difficiles. Avez-vous remarqué que David demande un certain nombre de choses à Dieu, et deux pour être plus précis? Tout d'abord, il demande de la confusion dans leur communication. « Supprime, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. » Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, cette notion de confusion des langues, hein? Babel par excellence. Hein, c'est les querelles entre les méchants qui se retournent contre eux finalement. Et puis la deuxième chose que David... Des fois, on passe un peu trop rapide dans la lecture du texte. Mais la deuxième chose que David demande, c'est qu'il meure, verset 16. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car le mal les habite, il est en leur sein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de telles paroles? Vous est-il déjà arrivé, dans votre parcours de vie, de souhaiter la mort de quelqu'un? Non, mais moi, je suis un bon chrétien. C'est hors de question que... Allez, une petite pensée, là. Moi, ça m'est déjà arrivé, je peux vous dire. Ça aurait été tellement plus simple que la personne disparaisse, rayée de la terre, qu'elle l'enquiquine plus, qu'elle ne fasse plus de dégâts, de problèmes. Oui, je crois qu'il faut être honnête. Donc, voilà. Ce type de verset, ce type de paroles que David dit là, on les retrouve dans d'autres psaumes. Ça s'appelle des paroles d'imprécation. Et dans les psaumes, en fait, on s'aperçoit que voilà, ces paroles reviennent. Et lorsque David dit que la mort les surprenne, que vivants ils descendent dans le séjour des morts, là, il parle de ses amis, de ses ennemis, y compris de son ami qui l'a trahi. Et pourtant, dans les versets précédents, il exprime sa tristesse parce que cet homme l'a trahi. Vous voyez, c'est un mélange au niveau de ses sentiments. de son ressentiment. Comment peut-il donc lui souhaiter la mort dans des mots si sévères? Et je crois que ça nous invite finalement à une réflexion beaucoup plus une question beaucoup plus générale. C'est comment analyser l'attitude ou ces paroles de la part des psalmistes vis-à-vis de leurs ennemis. Dans les psaumes, nous lisons souvent des malédictions contre les ennemis des psalmistes. Parfois, ils utilisent des termes qui sont vraiment choquants. Et ces paroles, en fait, quand on regarde la parole de Dieu dans son ensemble, et c'est ce qu'il faut faire, hein, en fait, finalement, il y a des paroles de l'Ancien Testament qui sont éclairées par le Nouveau Testament. Et alors là, on se dit, sermon sur la montagne, Jésus, qu'est-ce qu'il dirait d'une telle situation, hein, d'un homme qui est en conflit avec son meilleur ami? Ben, Jésus dirait ça. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Persécute. Vite fait, hein. Vite dit. Dans la pratique, c'est plus compliqué. Hein, quand on lit un verset généraliste comme ça, mais quand on y est confronté à des réalités comme ça, cette invitation à aimer nos ennemis, à pardonner, qu'est-ce qu'on met derrière le mot pardon? Faire attention, les pardons trop rapides dans des situations non gérées, des situations qui sont pourries de l'intérieur. Donc voilà, il doit y avoir véritablement une vraie réflexion. Alors juste pour vous aider à comprendre ce genre de verset, quelques pensées, quelques idées clés. Voilà, quand il y a expression des malédictions dans les psaumes, comment il faut les gérer? Les psaumes, en fait, c'est un langage qui est poétique. Et ça emploie souvent l'hyperbole. C'est-à-dire, l'hyperbole, c'est l'exagération dans les propos pour mettre en relief un sentiment. Chaque émotion est exprimée avec beaucoup d'intensité. Les psalmistes, aussi, ils désirent véritablement la justice, pas la vengeance. Là, dans cette situation-là, David voulait vraiment que justice puisse être faite par rapport à son fils, par rapport à ses opposants, par rapport à cet ami. Pourquoi? Pour que la paix puisse revenir dans Jérusalem. Il avait un intérêt, d'État par rapport à son pays, par rapport à sa région. Et en priant de cette manière, eh bien, David abandonne cette notion de vengeance et il laisse le champ libre à Dieu pour agir. Mais souvent, dans ces textes-là, les ennemis sont vus pas seulement comme des ennemis des psalmistes, mais sont vus surtout comme des ennemis de Dieu, de par leur attitude, de par leur choix de vie. Et puis, ces textes, ces cris, sont aussi des cris pour la justice qui mettent finalement en relief le grand besoin du monde, finalement pour la réalité de la venue du royaume de Dieu. Je m'explique. Il y a de l'intensité, il y a de l'émotion dans ces psaumes qui finalement nous proposent une expérience et qui nous montrent surtout une réalité de ce que le monde vit autour de nous. Essayez de vous imaginer, vous êtes un chrétien là au Moyen-Orient, vous êtes un chrétien en Ukraine ou en Russie, vous êtes un chrétien en Palestine, vous êtes un chrétien dans l'État juif. Comment est-ce que vous vivez? Comment est-ce que vous liriez un tel psaume dans l'actualité? S'en remettre à Dieu, confier à Dieu, croire que Dieu tient les ficelles de l'histoire. C'est cette relecture-là que la parole de Dieu nous invite. La Bible ne répond pas à toutes les questions, toutes les réalités-là, mais elle nous donne des pistes pour aller plus loin. Car vous comprenez bien que, finalement, n'importe quelle situation conflictuelle, pour s'en sortir, il faut y mettre les ingrédients des valeurs de l'Évangile. Car dans ces valeurs, on devrait retrouver déjà, de la part de la personne, le désir de sortir du conflit. Et pour qu'il y ait ce désir de sortir du conflit, ça nécessite déjà une base d'humilité dans l'attitude de la personne. Et ça, c'est le plus important. Et puis, alors pour nous, dans une perspective chrétienne, remettre à Jésus, au pied de la croix, la réalité de ce qu'on vit et de se souvenir que le message de la croix, quand on le met au centre de nos réalités, c'est qu'on veut véritablement que la seigneurie de Jésus ait autorité sur les réalités conflictuelles que l'on peut vivre. Et c'est ça qui, dans le temps, va produire un éclair, une pensée avec un désir de réconciliation pour que Dieu soit honoré et que le pardon sera vécu. Mais On ne peut pas faire et vivre les choses par nos propres forces, avec nos propres intentions. Et puis pour que cela se vive, bien évidemment, il faut être deux. Mais mettez-vous dans la peau de David, il faut que déjà lui-même, il règle son problème de cœur, son problème intérieur, sa manière de penser. Et c'est cela qu'il faut demander en tout premier lieu à Dieu. Seigneur, transforme mon cœur, apaise mon cœur dans cette situation. Et c'est ce qu'il fait à la fin de ce psaume. Et c'est vraiment, je crois, une clé hein, pour retrouver l'apaisement dans une situation conflictuelle de couple, de famille, d'église. Pourquoi pas avec ses voisins à cause de la haie qui n'est pas taillée, à cause de ses voisins parce qu'ils font du tapage, à cause... Vous voyez, ce genre de situation, c'est déjà dans notre cœur que les réalités doivent se faire. Mais revenons à la fin de ce psaume. En fait, à la fin du psaume, dans les versets 17 à 22, il y a l'expression de la confiance en Dieu que David va exprimer. Lorsqu'il prie, David, malgré son trouble intérieur, malgré toutes les émotions qu'il avait, qu'on a décrites tout à l'heure, en fait, il réalise qu'il a un choix à faire. Soit il continue à se plaindre à Dieu et rester dans le même état d'esprit, et donc ça veut dire qu'il va continuer à macérer dans une attitude de cœur négatif. Vous voyez, vous comprenez, ça vous arrive à vous aussi, hein, de ne pas arriver à faire surface, et puis vous continuez à macérer et à vous enfoncer avec des pensées qui sont de plus en plus noires. Ou bien, persévérer dans la prière, et c'est ce qui est marqué dans ce passage, et c'est bien ce qu'il exprime dans le verset 17, qui est, à mon avis, un tournant du psaume, où il dit « Moi, j'invoque Dieu, le Seigneur me sauvera. » Ce n'est pas point d'interrogation, c'est une affirmation, c'est une assurance qu'il a dans son cœur. Oui, il fait le choix d'invoquer Dieu. La personne avec laquelle vous êtes en conflit peut faire d'autres choix, mais vous, vous priez car vous voulez vous sortir de cette crise. Et David, là, il met le paquet, hein. Prière le matin, le midi, le soir. Il accomplit une sorte de discipline spirituelle, relationnelle pendant cette période de crise. D'ailleurs, d'autres personnes, comme Daniel, dans chapitre 6, feront exactement la même chose avec ce désir, vraiment, que Dieu intervienne dans cette situation de vie. Pourquoi prie-t-il d'une manière aussi persévérante et intense? Eh bien, la réponse, elle est dans le verset 19, qui nous dit « Par la paix », et ça, c'est le fruit, finalement, de la réalité de ce qu'il a vécu dans la prière, « Par la paix, il m'a libéré de la guerre qu'il me faisait lorsqu'ils étaient en nombre contre moi. » On voit un langage très guerrier de la part de David à ce moment-là, mais il avait besoin d'être protégé. Il y avait un véritable combat contre lui, et lui, il était tout seul. Et c'est pour cela qu'il crie à Dieu. Et cette décision, finalement, cette attitude de cœur, va lui permettre de retrouver l'espoir. L'espoir face à la désespérance de tout à l'heure. Hein ? Vous voyez, voilà, la réalité. Et David, vraiment, il avait ça. Et dans un verset qui mériterait d'être sur le fronton de nos cœurs, en tout cas, mais d'être appris par cœur, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. » Et là, il retrouve sa confiance en Dieu et l'assurance que Dieu sera à ses côtés. D'ailleurs, il complète hein, avec une promesse, « Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Dans ce cœur à cœur avec Dieu, David va redécouvrir la paix dans cette situation qui est compliquée. Et c'est Dieu qui le visite et qui va transformer l'intérieur de son cœur. Voilà pour la dimension de l'encouragement de notre foi. Alors, c'est vrai que du point de vue humain, il est naturel que David puisse se sentir amer. Cet ami supposé avait violé une alliance, hein, c'est ce qu'il nous est dit. Et puis à l'époque de David, hein, c'est important, c'est l'un des crimes les plus infâmes que de rompre une alliance qu'on avait faite avec quelqu'un. Les alliances étaient sacrées, c'est-à-dire bénies par Dieu en tant que telles. Et ce qui se passe là, ça me rappelle une autre forme d'alliance, non pas seulement celle-là, mais l'alliance que j'ai un jour où j'ai dit oui à mon conjoint. Et quand cette alliance-là, elle est trahie pour différentes raisons, eh bien, finalement, ce n'est pas seulement le couple qui vit cette réalité de trahison, mais c'est tous ceux et celles qui entourent la réalité qui se sentent trahis. Et là, celui qui devait être finalement l'allié de David cherche à le détruire et à s'aimer la violence autour de lui. Et donc David est donc victime d'une sorte de trahison flagrante. Et là, il se dit, mais il faut que Dieu intervienne. Et David va, avec une déclaration très forte dans cette attitude-là, il laisse Dieu faire. Alors, que fait-il? Je le rappelle quand même. En fait, il renonce finalement à l'amertume et il abandonne tout désir de vengeance. Ça, c'est important aussi. Mais vous savez, un désir de vengeance, hein, ça peut être dire des paroles assassines sur une personne ou à une personne, voilà, avec un désir de, vraiment de vengeance, quoi. Et là, on voit qu'il y a trois choses qui lui permettent de retrouver la paix. Je les ressouligne. Il sait que Dieu entend sa prière et que Dieu va s'occuper de la réponse par rapport à cette situation donnée. Il se rappelle que Dieu règne sur toute chose. Et ça, on a peut-être la fâcheuse tendance à l'oublier en tant que chrétien. On arrive au culte, on est préoccupé par toutes sortes de choses. On renouvelle notre alliance au travers du pain et du vin, au travers de la scène, en se souvenant de l'événement passé central à notre vie chrétienne, qui est la croix et la résurrection. Et on repart du culte, on franchit le pas de porte ici, et on reprend notre fardeau et notre souci, notre amertume et tout ça. Et en fait, Dieu connaît l'histoire. Il connaît l'histoire de notre passé, de notre présent et du futur qui nous attend. Dieu est là. Il est le maître de l'histoire. Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu juste. Et finalement, les ennemis de David finiront par recevoir les conséquences de leur mauvaise attitude. Alors, et je vais finir, il a dû avoir sûrement une peine, qui a dû avoir de la peine à se cicatriser. Ça prend du temps quand on a été trahi. Mais dans sa relation à Dieu, et surtout dans ce qui se passe au fond de son cœur, et peut-être dans tout ce qu'il disait, tout ce qu'il communiquait, David a retrouvé la paix, on le voit. Pourquoi ? Parce qu'il a trouvé en Dieu, et comme Michael le disait tout à l'heure en introduction du chant, il a trouvé en Dieu un roc solide auquel il peut s'accrocher au moment où finalement tout son monde à lui, le monde de David, semblait s'écrouler. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. J'espère que la méditation de ce psaume vous encourage, pas seulement par rapport à l'exemple cité, mais comme un exemple de pratique que chacun d'entre vous pouvait faire. Posez-vous des questions clés quand vous lisez un psaume. En fait, finalement, de quoi Dieu veut me parler au travers de ce texte? Il y a des situations dans nos vies qui peuvent être compliquées, mais Dieu veut nous conduire, il veut continuer de nous instruire, quel que soit le nombre d'années que nous avons de vie chrétienne avec lui. En fait, en quelque sorte, un tel texte, ce n'est pas parce que je suppose que vous êtes en conflit ou qu'un ami vous a trahi, mais c'est aussi un petit peu pour faire de la prévention. C'est important, la prévention. Se préparer à vivre les choses, c'est important. Puis vous l'avez compris, dans toutes ces situations, nous sommes invités à prier et encore à prier. Et tu nous l'as rappelé aussi, tu l'as rappelé aux enfants, mais j'espère que les adultes l'ont entendu aussi, l'importance de la prière. Une vie personnelle, chrétienne, sans la prière, ce n'est pas une vie chrétienne. Il manque l'essentiel, la relation à Dieu au travers de la prière. Une vie d'église, sans la prière pour porter les projets, pour porter la vie des frères et sœurs, en fait, s'il n'y a pas la prière, ce n'est pas une vie d'église. Il manque l'essentiel. Parce que finalement, quelle est la différence avec une association X, Y, Z ? Non, la vie de prière, la vie de la relation avec Dieu dans une vie d'église est essentielle, quoi. Donc, lorsque vous entendrez les annonces de votre groupe de maison, de votre vie de prière, d'église, n'oubliez pas, c'est dans la chaudière de la prière que tout se joue dans notre relation avec Dieu. Dieu entend notre prière, il s'occupera de la réponse. Dieu règne sur toute chose et il est souverain sur toute situation relationnelle et Dieu est juste. Et puis gardons en tête ce verset, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Je vous invite à prier pour conclure cette méditation. Seigneur, vers qui irions-nous, si ce n'est vers toi, pour vivre, pour continuer à marcher, et ceci avec toutes les circonstances de nos vies. Tu connais nos pourquoi, tu connais nos questions, tu connais nos interrogations, tu connais ce que nous vivons dans notre actualité personnelle aujourd'hui. Et Seigneur, Dans un élan de foi, à la suite aussi de l'attitude qu'a eue David, nous voulons te dire, Seigneur, que nous remettons toutes choses entre tes mains. Et nous voulons nous approprier, dans une attitude de foi aussi, cette promesse que tu vas nous soutenir. Seigneur, merci de ton aide. Merci de ta force pour chacun d'entre nous. Merci de nous accompagner. Et que dès le moment où nous sortirons d'ici, nous puissions vraiment être dans cette réalité de cœur, de confiance et d'espérance en toi. Et puis Seigneur, je te remets aussi toute la notion de la transmission de la foi à ceux et celles qui nous entourent et aussi aux plus jeunes. Je te remets cet après-midi avec les flambeaux clair-flamme. Bénis ces temps, bénis ces moments. Encourage-les, Seigneur, dans ces moments de vie avec les enfants, avec les jeunes, et qu'en toute chose, Seigneur, tu puisses être honoré et glorifié. Merci, parce qu'avec toi, nous ne serons pas déçus. Et on te bénit pour toutes choses. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen.